Aujourd'hui, nous entendons deux lectures et elles ont un point en commun. Et le point commun, c'est la dignité. Enfin, apparemment, c'est ce qui ressort en tout cas. Donc, dans la première lecture, Paul évoque les premières célébrations eucharistiques informes, plus ou moins informes, où les chrétiens se réunissent, mais alors on a l'impression que, en tout cas dans cette église de Corinthe, il me semble, hein, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, cette église de Corinthe, ça n'a pas l'air bien clair en tout cas. Et donc Paul dénonce cette indignité des célébrations, où au fond, c'est à peine si on n'a pas parfois des beuveries, où il y a une certaine suffisance des uns vis-à-vis des autres et d'insuffisance des pauvres. Et Paul rappelle le récit de l'institution. Tel que lui l'a reçu, et en disant, écoutez, ce à quoi on communie, c'est pas une nourriture habituelle. Donc il reprend toute cette question de la dignité d'une assemblée. Comment nous venons, pour nous, ça peut nous parler de la manière dont nous nous présentons finalement à la messe. Alors aujourd'hui, bon, habituellement, on ne vient pas avec de la nourriture. Il y a normalement aussi un jeûne eucharistique assez réduit d'une heure avant la messe. Ah, sauf si on est malade, si on a des médicaments, si voilà, il y a des exceptions. Hein. Mais pour nous préparer un peu à recevoir un aliment particulier. Et c'est l'occasion pour nous de... Évidemment, on ne peut pas comparer tout à fait avec ce qui s'est passé avec Paul, là, ce qu'il dit, mais pour nous, voilà, est-ce que nous laissons les uns dans un coin, les autres dans un autre coin ? Est-ce qu'on est entre soi, en fait ? Est-ce qu'on est des gens bien ? Ou est-ce que nous sommes de pauvres pécheurs ? Précisément, peut-être indigne. Et alors l'Évangile nous éclaire sur cet aspect-là. Et on est dans le chapitre 7 de Luc. Et parfois, il arrive que ce soit intéressant d'aller regarder ce qui se passe avant. Là, ça m'a paru intéressant, vous verrez pourquoi plus tard. Donc Jésus vient de parler de la maison sur le roc, la maison fondée. Et en fait, il dit « celui qui met la parole en application » ressemble à quelqu'un qui a posé une maison, fondé une maison sur du roc. Et donc là, nous, dans l'Évangile, nous entendons parler de ce centurion. Mais c'est ça l'enseignement que Jésus venait de donner juste avant. Hein. Donc le centurion, il fait quoi ? Il se fait représenter. Il est romain, il n'est pas juif. Il se fait représenter parce qu'il juge que voilà, il a le sens des valeurs, le sens de la règle. C'est un militaire. On est très à l'opposé de la situation de bazar qu'évoquait Paul dans la première lecture. Là, on a quelqu'un qui voilà, qui suit des règles, qui a une notion de l'efficacité de l'obéissance, qui l'a expérimenté manifestement. Comme on dirait, c'est un type réglo. Voilà. Et donc, il se fait représenter. Et alors, les Juifs qui viennent, eh bien, les Juifs qui viennent tiennent le discours suivant. Alors on peut imaginer que ces juifs ont entendu la parabole juste avant. Hein. On peut l'imaginer, c'est pas forcé, mais on peut l'imaginer. Quoi qu'il en soit, ce qui importe aux yeux de ces juifs-là, c'est que cet homme a posé des actes. Et ces actes entraînent leurs paroles à eux. Il est digne. Il est digne. Axios. Donc en grec, ça veut dire pesant. Il est conforme. Et ouais, il est digne. On peut dire ça. Et donc Jésus y va. Et puis deuxième étape. De nouveau, ce centurion se fait représenter en disant, bon, j'ai envoyé quelqu'un, mais enfin, ça n'a pas de sens, il ne peut pas venir chez moi. Enfin, je suis un étranger. Donc, là, le texte nous dit, je ne suis pas digne. Et c'est très embêtant, parce que en grec, il y a deux mots différents. Entre la première dignité dont parlaient les juifs, donc axios, ça c'est vraiment la dignité, ce qui pèse, il est conforme, ce type il est bien quoi. Il fait des trucs bien en fait. Hein. Donc tu peux lui adresser la parole. Et là... c'est pas du tout le même mot, c'est le mot ikanos. Alors ikanos, littéralement, ça veut dire suffisant. En grec, ne pas en effet suffisant, je suis. Ougar ikanos eimi. Je ne suis pas suffisant. Je ne suffis pas à te recevoir. C'est ça que ça veut dire. Alors, vous comprenez que c'est extrêmement important, parce que ça, nous le reprenons justement dans la liturgie. Liturgie évoquée par Paul dans la première lecture. Et en fait, il dit, moi, je ne suis pas suffisant, mais ta parole, elle est suffisante. C'est tout à fait passionnant. Ça veut dire qu'au fond, le centurion dit à Jésus, écoute, c'est suffisant au sens de spacieux, en grec, ça veut dire « j'ai pas la place de te recevoir ». Je n'ai pas la place. Prenons un exemple. Je ne sais pas, moi, imaginez que dans une église, enfin même pas une église, une chapelle, voilà, dans une chapelle, vous vouliez mettre 5000 personnes. Ce n'est pas suffisant. Vous voyez, il n'y a pas la place, quoi. Ce n'est pas suffisant. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Jésus est dans l'admiration parce qu'il dit « Dis une parole et mon serviteur sera guéri ». Autrement dit, c'est exactement l'inverse de ce que les pharisiens ont dit. Les pharisiens ont dit « Tu vois les actes qu'il pose, ça mérite que tu lui adresses la parole ». Et là, le centurion dit une parole et ça produira un acte. Et c'est exactement l'illustration de la parabole précédente que Jésus a dite. La maison sur le roc, si vous suivez, si vous mettez ma parole en application, ça aura des actes, des conséquences. Donc je trouve ça très intéressant et ça s'achève en disant Jésus fut dans l'admiration. En fait, c'est ce centurion qui réalise la parabole que Jésus vient de... qui n'est pas une parabole, hein, mais l'illustration que Jésus vient de donner des gens qui écoutent sa parole. Donc, c'est un acte de foi bouleversant qui fonde la maison de ce centurion sur le roc. Alors, on peut aussi y voir... moi, j'avais ajouté une note dans la Bible... J'avais mis un parallèle avec Luc 1,34. Quomodo fiet istud, c'est l'annonciation. Comment cela va-t-il se faire, car je ne connais pas d'homme. D'une certaine manière, la Vierge dit, je ne suis pas suffisante pour ce que tu me demandes. Je ne suffis pas. Et là, nous voyons que ce n'est pas une question de dignité, D'abord, une question d'espace. Voilà, petit parallèle que je me permets. Donc, si nous revenons à la célébration de la messe, ça signifie pas Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Ça vient du latin. Dans le latin, il y a deux fois le mot dignus, dignum, non sum dignum. Mais en grec, il y a d'un côté digne par les pharisiens et de l'autre insuffisant. Ce qui veut dire que quand nous disons Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, nous pouvons penser Seigneur, je n'ai pas la place pour te recevoir. Parce que mon ego prend toute la place, mon péché a pris toute la place. Je ne me suis pas préparé. D'une certaine manière, pour un homme, c'est beaucoup plus compréhensible. La femme, elle a la capacité de faire de la place en elle pour accueillir une vie. L'homme, il l'a pas. Et c'est intéressant que ce soit un centurion qui ait dit ça et pas une femme du reste. Mais enfin bon, ça c'est un peu une digression. Mais quand on dit nous ne sommes pas suffisants, ça signifie dis une parole. Et en latin, et sanabitur anima mea, et mon âme sera guérie. C'est-à-dire que mon âme pourra enfin t'accueillir parce que tu auras posé cette parole, aura produit un acte en moi qui dilatera mon âme pour te recevoir. Alors évidemment, c'est pas joli, c'est simplement invraisemblable. Comment on peut ensuite sortir de la messe sans même passer de temps pour une action de grâce? C'est impensable. On a demandé au Seigneur de de dire une parole qui dilate notre âme. On le reçoit et salut, merci, au revoir, à la prochaine. Bah, c'est impensable, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas faire un truc comme ça. C'est même pas de l'ingratitude, c'est de la vulgarité. Voilà, donc nous pouvons penser à ça. En parallèle, encore une fois, avec la lecture de Paul, et nous dire, voilà, quand je dis, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, eh bien, bien penser intérieurement que cette dignité concerne un espace en nous, un espace spirituel, un espace de guérison pour que Jésus puisse venir réellement en nous. Voilà, je pense qu'on peut aller jusque-là dans la compréhension de ce passage.